Non, mais celui qui... je crois que si vous êtes à Lille, il faut dire ça, mais ici,
oui. Ouais, mais j'étais 5 ans en Pas-de-Calais, mais je ne me souviens plus. Donc, allez, on va dire Boiteau. Donc, et alors, je fais le lien un petit peu avec le cours précédent sur l'idée du nouveau monde, du fin d'un monde, parce que justement, c'est un petit peu ce qui, à mon avis, caractérise le Boiteau. Et j'avais choisi comme œuvre de référence, pour qu'on vienne à prendre départ, cette qui semble peut-être la plus emblématique, ce qu'on appelle la leçon de musique. Donc, elle va arriver. La voilà. La leçon de musique, alors j'ai plusieurs versions, parce que j'essaie d'avoir les meilleures définitions. Celle-ci, alors, je crois qu'elle est de meilleure qualité. Je vais vous donner un peu pour voir. Alors, on va regarder la première. Alors, 1717, hein, donc la leçon de musique 1717, donc on est en plein. Louis XIV vient de décéder, il est décédé en 1715. Louis XV, donc on est vraiment dans la France du royaume Roi Soleil, centralisé, de droit divin. On est vraiment au sommet, le triomphe et un peu l'aboutissement avec Louis XIV et Louis XV d'un type de monarchie, d'un type de société. Et là, justement, c'est un petit peu ça qui est en jeu dans la peinture de Watteau. D'autant plus, hein, c'est vrai que ce XVIIIe siècle commence, 1717 jusqu'à, avec un système effectivement totalement hiérarchisé, archaïque, et ça termine avec la Révolution française. Donc on est dans en quelques dizaines d'années, il y a un basculement incroyable, hein, des valeurs, des références, des modèles, du mode d'organisation, de la façon de penser le corps, même les habits. La différence entre les vêtements du début du XVIIIe siècle et les vêtements de la Révolution française, on verra ça, c'est radical. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui se passe. Hein, comme je parlais d'un nouveau monde avec Tiepolo, là on n'est pas très loin. Alors, il y a des différences, y compris... ce qui va être aussi assez clair dans cette peinture, alors je reviendrai sur cette peinture de Watteau, c'est que, à mon avis, il questionne aussi les rapports masculin-féminin, la façon de courtiser, de séduire, ou d'abuser, justement, dans la séduction. Et là, c'est quelque chose aussi qui est sans doute en jeu, et c'est cela aussi que je voulais développer dans les peintures de Watteau. C'est le rapport du masculin et du féminin, puisque... C'est un des thèmes qui m'intéresse, puis qui est intéressant, qui sera aussi en jeu avec la Révolution française, parce que la façon dont les femmes vont faire irruption dans la Révolution française, y compris dans le siècle des Lumières, c'est pas inintéressant. Donc, il y a des choses qui sont aussi en jeu là-dedans. Alors, à propos de femmes peintres, justement, ce qui est... Et ça, c'est pas fait exprès, il se trouve que c'est ça. Je vous ai parlé la dernière fois de Rosalba Carriera, qui est justement une peintre, femme peintre et pastelliste vénitienne. Et là, vous avez donc un de ses portraits. C'est un autoportrait. Donc, elle a donné un titre, l'hiver, hein, l'hiver de sa vie, elle est un peu plus âgée, etc. Le Rosalba Carriera, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que c'est comme Giulia Lama, la dernière fois que je vous ai parlé de Giulia Lama, et Rosalba Carriera, qui est aussi vénitienne, qui est aussi italienne, ce sont deux femmes contemporaines, qui avait la réputation, alors, selon des critères de l'époque, qui sont effectivement sans doute discutables, d'être très mal à l'aise avec leur propre image, leur propre corps. Donc elles se trouvaient laides. Et on disait d'elles qu'elles étaient laides. Et même s'il y a des commentaires qui sont odieux, du genre « Ah, c'est dommage, parce qu'elle est tellement bonne peintre, c'est dommage que ça ne se voit pas sur sa figure, des trucs odieux. Hein. » Et ceci dit, dans leur vie artistique, dans leur vie sociale, le fait d'être des artistes virtuoses, ça les a aussi empêchés, quelque part. C'est assez terrible. Hein, parce qu'on ne demandait pas à un peintre homme d'être bien de sa personne. Et donc, vous avez quelque chose ici qui se joue aussi. Alors, quelqu'un comme Giulia Lama, dont je l'ai parlé la dernière fois, j'ai révisé, effectivement, Piazzetta, par exemple, c'était un ami d'enfance. C'est un peintre qui a été un compagnon et ami. C'est une relation très amicale entre Piazzetta et Giulia Lama. Et donc là, vous avez des relations parfois qui s'établissent. Hein, ça se, parfois, c'était les pères, les frères, les compagnons, même des amis, dans lesquels vous avez parfois, il se passe des choses qui sont très positives. Mais la société est, hein, en général, incapable d'accepter cela. Alors, Rosalba Carriera fait beaucoup de pastels d'une très très grande qualité, et il se trouve qu'elle a fait un portrait de Watteau aussi. Donc, si vous voulez, vous avez des liens. Hein, il y a des liens entre ce monde-là, et c'est pas un hasard aussi. Et là, c'est une interprétation personnelle, vous avez le droit. Mais il se trouve que le rapport à son propre corps et au corps des autres, chez Watteau, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en jeu dans sa peinture. Et c'est en ce sens aussi que le rapport avec Rosalba Carriera n'est pas que anecdotique, puisqu'il y a sans doute une sensibilité, une manière de se voir dans le monde, et dans un monde aussi qui est très normatif, surtout un monde du pouvoir, qui est stéréotypé, où on est dans l'apparence, puisqu'on a vu que, alors, à Venise, il y a l'idée du masque, mais à la cour, on est vraiment, on sait très bien, dans l'apparence. L'apparat, l'apparence. Tout est une histoire de représentation et de spectacle permanent. Or, il se trouve que Watteau, alors, juste pour rappel, voilà, Louis XIV, donc Paris à Saint-Trigo, on est donc quand même dans quelque chose où, justement, on n'est pas du tout dans la modestie des matériaux.
C'est pas Jupiter, mais c'est presque.
Et vous voyez donc que la posture, pour le corps, est presque débordant, débordé, effectivement, de matières, matériaux. Évidemment, c'est le roi. Hein, mais pourtant, il monte ses jambes. Et l'épée, en tant que cavalier potentiel, etc. Louis XV, enfant, est déjà lui aussi programmé, peint pour ce type de posture, hein, dans laquelle le corps du roi, c'est quelque chose, hein, on a eu beaucoup de films et d'histoires là-dessus, c'est quelque chose qui a de l'importance. Donc, la façon d'être devant les autres, de paraître, la parure, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, il se trouve que Watteau, lui, il vient d'un monde un peu différent, il vient d'un milieu, alors attention, comme presque tous les peintres, quasiment tous les peintres, d'ailleurs, viennent souvent de milieux populaires, puisque les aristocrates ne doivent pas peindre, ne doivent pas travailler. Rappelez-vous l'histoire de Velázquez. Hein, c'est que Velázquez était presque obligé de dire qu'il n'était pas peintre. Donc, sociologiquement, les peintres viennent, on verra la même question avec Goya d'ailleurs, ils viennent presque tous de milieux populaires ou classe moyenne, mais ça peut être parfois très populaire, et ils gagnent leur vie par leur travail, un travail manuel, hein, qui est plus ou moins reconnu, et ensuite ils gagnent des galons, de la noblesse dans leur travail en s'attaquant à des sujets, on va dire, de plus en plus hauts, de plus en plus reconnus, on a des commandes, etc. Et Watteau, d'abord, il est provincial, il est du Nord, justement, et Flandre, je ne sais plus exactement d'où. Il est très doué, il va, alors, globalement, il a plus ou moins un maître qui va l'aider et le lancer, qui va même le pousser un petit peu à postuler pour l'Académie de peinture, etc. Mais Watteau, pendant un premier temps, même à Paris, il galère vraiment, il est limite SDF, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est donc, il sait ce que c'est que de vivre de son travail, de vivre de sa peinture, d'essayer de vivre de sa peinture. Et puis, il est remarquable dessinateur, donc il réussit quand même à rentrer, à passer des sortes de concours pour être admis dans une sorte de confrérie de peintres, et il va être en gros admis dans le sérail des peintres de cour, des peintres qui peuvent aller, à qui on va commander des portraits, des scènes décoratives, et qui ont le droit de fréquenter la grande aristocratie. Et c'est là où on arrive justement à la peinture de Watteau, qui très souvent décrit des scènes qui sont des scènes justement hors du monde réel, que lui il connaît pourtant très bien. Par exemple, dans la leçon de musique, et ça c'est quelque chose qui est une permanence chez Watteau, on est dans des paysages qui sont difficilement identifiables. On est souvent dans des forêts, dans des bois, dans des sous-bois. Le sol est souvent incertain. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de perspective très claire. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. On a l'impression que parfois le sol se dérobe sous les pas. Les lointains sont flous, ce qui donne d'ailleurs une grande poésie à l'art de Watteau, avec effectivement l'impression qu'on surplombe même une sorte de vallée, hein, donc un sol incertain, des lieux incertains, une certaine confusion. Et dans cette confusion d'une nature avec très peu d'architecture, on voit rarement de palais, on voit pas de construction, on voit pas de ferme, on voit pas de château, on voit rarement de... Enfin, parfois, on voit très peu. Donc on est vraiment dans une sorte de nature, mais une nature qui est loin du travail, loin des champs, loin des animaux. C'est pas du tout une nature paysanne, c'est pas une nature paysagère. En fait, ça désigne la plupart du temps des parcs. à des parcs de châteaux, et le côté aussi sombre ou un peu à l'écart des parcs à la française. Le parc à la française, c'est entièrement rangé, orthogonal, maîtrisé. Là, mais il faut savoir que les parcs à la française sont très structurés, à condition qu'ils soient bordés par, justement, des sortes de sous-bois de forêt qui rappellent un petit peu la nature sauvage, mais qui servent aussi parfois, justement, pour des ébats, pour la séduction, pour se cacher. Et puis, il y a un côté un peu dionysiaque, on va dire, érotique, dans ces sous-bois, dans ces... Alors que le parc central, la structure des parcs à la française, et les buis taillés, les perspectives, les constructions, sont plutôt du côté de l'apparat et du pouvoir. Donc, et Watteau, la plupart du temps, représente ces paysages un petit peu incertains, coupés du monde, dans lesquels s'ébattent presque toujours des couples, et qui sont dans des rapports, justement, de séduction. Ce que l'on voit aussi très clairement dans quasiment toutes les peintures de Watteau, et je vous montrerai aussi, ce sont des habits, justement, brillants, qui vont capter une lumière, donc c'est de la soie, c'est du satin, c'est des choses comme ça, avec des plis très très fins, donc on imagine des habits qui sont aussi très raffinés, hein, qui se plient et qui se froissent avec beaucoup, et qui renvoient une lumière brillante, avec à la différence ici des textures du paysage, des fonds qui eux sont au contraire sont fondus. Donc Watteau travaille sur une gamme de peinture qui est tendue entre le flou délibéré des paysages, etc., et qui au contraire, une espèce de brillance et de l'éclat de sa touche nerveuse quasiment, vous avez une tension dans l'art de Watteau qui rend d'ailleurs son travail de ce point de vue-là assez fascinant. En regardant la touche de Watteau, il y a une tension, un dialogue remarquable. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi pas mal là-dessus, c'est les rapports amoureux, enfin les rapports de séduction sont des rapports justement qui sont quasiment toujours des rapports pervertis. Des rapports de tromperie, des rapports justement de fausseté. Alors on est à la période aussi du libertinage, y compris des tromperies. Hein, j'oublie toujours ce roman épistolier qui fait partie de la grande tradition des romans libertins, épistoliers, zut.
Liaisons dangereuses.
Voilà, les liaisons dangereuses, etc. Voilà, vous avez tout ce genre de choses où on joue avec les sentiments, où on se trompe, où on se ment, etc. Et on fait très peu de cas des véritables émotions, du véritable corps, et on est dans l'abus, hein, avec certaines personnes qui semblent effectivement naïves et d'autres qui semblent au contraire cyniques et désabusées totalement, de plus croire en rien. Et justement, on est dans quelque chose de superficiel. Par exemple, et Watteau semble effectivement une sorte de témoin de cela. Alors pourquoi je dis témoin ? Parce qu'on verra qu'il s'engage peu là-dedans. Et par exemple, dans la leçon de musique, vous avez effectivement, théoriquement, le musicien ici qui joue, une sorte d'ancêtre de la guitare, hein, qui va lire, on pourrait penser qu'il va lire les notes de musique ici, mais en fait, il y a pas mal de choses qui sont des indications d'un personnage qui serait plutôt malveillant, avec une jeune femme qui se penche vers lui avec un grand décolleté. Et si vous regardez bien, par exemple, j'ai mis longtemps alors, les mains du guitariste sont des mains qui ne sont pas du tout des mains douces, fines et jeunes. C'est quelqu'un qui semble, y compris, déguisé. C'est des mains noueuses, c'est des mains qui évoquent au contraire plutôt un corps dur, hein, presque crochu, hein, contrasté, tendu, nerveuse. Son regard, si vous regardez bien, et on verra plus tard, a quelque chose qui est de la nature du satyre, et on verra plus tard que c'est quelque chose qui est assez clair chez lui, ou méphistophélique. Et effectivement, une sorte de regard de fausseté, et son regard, on ne sait pas s'il regarde effectivement le livret de musique ou le décolleté, etc. Donc, une sorte de séduction superficielle. Et si vous regardez bien, c'est assez souvent ce que l'on verra dans les peintures de Watteau, on voit des couples, hein, qui sont en train de se séduire, de jouer effectivement, mais avec ce qui prédomine, c'est une certaine superficialité. Alors, il y a la virtuosité de Watteau. Hein, là où ça passe très bien quand même dans ce milieu-là, comme peintre, c'est d'abord qu'il est virtuose, c'est d'une très grande élégance, les jeux de lumière sont assez remarquables. Quelque part, ça correspond à une certaine réalité, c'est de jeu de cours, d'apparence, de séduction, de tromperie, etc. Et puis vous avez souvent aussi l'idée que dans les peintures de Watteau, les gens, il y a plusieurs couples. Comme si effectivement aussi, ça fait partie du libertinage, c'est qu'il faut que sa capacité de séduire soit vue par d'autres. C'est un jeu aussi de représentation sociale. On drague, on séduit, etc. Mais il faut à tout prix qu'il y en ait qui aient été témoins de son pouvoir. Et donc, si vous voulez, vous avez quelque chose ici qui est un jeu, c'est pas un jeu intime, c'est presque un jeu social dans lequel vous avez effectivement des proies, des prédateurs, des victimes, des témoins et une sorte de jeu, savoir qui va justement séduire le plus, etc. Alors, la leçon de musique, c'est quelque chose qui en même temps est un classique hein, de cette période-là. Alors ça, voilà une autre version. Hein, Alors les peintures de bateaux sont assez petites en général, hein, parce que c'est un travail aussi de minutie. Son geste justement de brillance, qu'on verra plus tard, c'est quelque chose qui peut être effectivement fait avec des coups de pinceau très légers. C'est quelqu'un qui ose aussi le flou, par exemple, dans la végétation. Hein, donc c'est intéressant parce qu'il a une gamme pratique qui est remarquable. C'est un très bon anatomiste, on verra dans les dessins. Alors voilà, ça c'est un petit croquis d'une leçon de musique. Où là il a dissocié les deux musiciens, celui-ci qui a vraiment l'air effectivement le plus jeune, etc., et inspiré, qui s'occupe, et ici celui-ci qui regarde par-dessus le dos, un petit peu, hein, comme, avec des éléments qu'on verra, qu'on peut associer soit à Lucifer, au satyre, etc. Et puis dans cette peinture de Watteau, vous avez l'enfance, et on verra l'enjeu de l'enfance chez Watteau. Dans cette peinture, on voit bien si sa touche et sa technique. Hein, quand je vous dis, c'est très libre. C'est virtuose, il y a quelque chose un petit peu comme s'il effleurait sa peinture, comme si aussi c'était quelque chose d'un peu désincarné, parce que il n'y a pas de masse, si vous voulez. C'est un petit peu comme si les corps, il y a ce côté un peu fuligineux, comme si ça se défaisait dans la peinture de Watteau. Alors, grand anatomiste, par exemple, ça se voit dans la façon dont il peint les mains, les visages en avant en arrière, la carnation effectivement sur les joues, les expressions, les drapés qui sont brillants au sens y compris de la qualité des volumes, des modelés, etc. Donc on comprend bien que Watteau ait tout à fait pu conquérir une part de public. Alors voilà un zoom, un détail sur le personnage en question, hein, avec y compris les veines bleutées, hein, ça va loin dans le détail là, sur ce corps-là. Alors, pourquoi je montre ça? Parce que justement, ça c'est un croquis, ça c'était aussi une autre étude, ça s'appelle Mazzettine, ou comment il s'appelle? Il a un nom, Mazzettine. Alors c'est en Russie, c'est une sorte d'étude sur le personnage du musicien, il a quand même déjà ses mains là, alors, c'est peut-être une surinterprétation, peut-être qu'un guitariste, effectivement, à force de travailler, il a des mains, effectivement, un petit peu comme ça, t'es tendu avec des tendons très musclés, donc ça peut, c'est peut-être aussi une déformation professionnel, mais il y a une sorte de... Et là, il a un air un peu plus inspiré. Alors, je continue autour. Et voilà, justement, toutes les scènes. Watteau, en fait, nous éclaire un petit peu, parce que dans une bonne partie de ses peintures, on va trouver des scènes dans lesquelles... ça, ce sont les cousins. Vous avez des personnages qui sont effectivement en train de forcer un petit peu leur présence, hein, surtout des personnages masculins, qui forcent leur présence auprès de personnages féminins. Alors, par exemple, ici, sous témoignage. Ce qui est assez incroyable ici, par exemple, dans les cousins, c'est que vous retrouvez, regardez, la figure du personnage qui est là est quasiment la même que sur le personnage de la leçon de musique. C'est comme si, en fait, vous aviez des rôles, hein, des rôles ou des personnages que Watteau représente avec... Alors ça, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais comme s'il y avait peu de sympathie pour ce visage. Ce visage, on ne voit pas les yeux, il a l'air effectivement une sorte de rictus, et le teint un peu rougeau, hein, toujours dans une position dominante, un peu insistante, et à côté, vous avez les jeunes femmes qui semblent un petit peu surprises, ou légèrement trompées, ou dérangées, etc. Et puis, vous avez souvent l'idée du témoin, hein, qui est là, effectivement, comme un chaperon ou quelqu'un qui va pouvoir être une sorte de témoin du pouvoir de celui qui intervient. Alors, la peinture de Watteau, la plupart du temps, si elles sont quand même petites, hein, on le voit par les touches, ici, ces petites touches nerveuses, brillantes, pas loin du dessin. Quelque part, Watteau, c'est quelqu'un qui peut presque anticiper des gens comme Toulouse-Lautrec, etc. Alors, regardez ici, ça s'appelle la grande surprise. Et vous voyez ici encore un troisième personnage. Là, vous voyez Encore le même type d'œil, le même type de coiffure, le même type de posture. Et regardez la main dans le dos. Cette fois-ci, hein, on a une main qui est presque verdâtre, hein, traversée par des veines saillantes. Hein, ça, c'est assez craint. Hein. Alors, quelle est la part de complaisance ou de complicité de la jeune femme, on ne sait pas. Mais vous voyez que c'est exactement la même figure que dans la leçon de musique. Donc, quand on voit la leçon de musique, il y a le personnage qui joue la musique, il y a la femme, etc. Mais quand on regarde les autres peintures de Watteau, il y a effectivement presque des codes. Hein, il y a presque des personnes, comment dire, en théâtre, des figures, des rôles, des personnages qui sont presque joués avec celui qui abuse, hein, la plupart du temps. Et là, c'est plus que clair, avec une saisie, regardez ses mains, hein, la différence entre les mains presque verdâtres et la peau claire de la femme. Et là, le musicien, là encore, qui accompagne, qui joue, etc. L'espace est toujours un espace aussi de solitude. On ne sait pas où on est. On s'est laissé un petit peu piéger. Le jour qui tombe, un monde qui finit, hein, un monde qui s'éteint, et dans lequel il se passe des choses qui sont déstabilisantes, qui sont surprenantes aussi. Alors, décors brillants, mais des personnages qui semblent être aussi dans des postures, hein, comme si à chaque fois on n'était pas vraiment dans les émotions et les sentiments. D'ailleurs, on voit très peu leur singularité. Hein, vous avez, c'est presque comme des masques, hein, quand on dit persona là, en théâtre, et toujours l'idée d'un sol instable, d'un premier plan qui semble glisser, de lointain, douteux, flou et confus. Qui donne, et toujours une grande tension picturale. Or, une toute petite peinture nous montre un petit peu la façon dont Watteau voit aussi ces personnages de la cour. Ça, c'est une petite, elle est au Louvre, elle est grande, presque du A4, même du A5. Ça s'appelle la finette. Finette, alors, je crois que c'est l'instrument, la finette. C'est une sorte de grand, une sorte de luth, de mandoline allongée, etc. Et là, on voit bien une petite figure de petite poupée qui semble totalement perdue dans un habit extrêmement brillant, très beau, qui va capter la lumière comme ça, le soleil brillant, mais un peu finissant, qui semble surprise et flottée aussi. Hein. Elle est assise, mais on ne voit pas très bien sur quoi elle est assise, on ne voit pas ses jambes, elle n'est pas campée, elle est surprise dans une sorte de naïveté assez claire. Et là encore, très flou. Alors, je zoome un petit peu, alors là on voit bien aussi la technique de Watteau. Alors c'est, il y a du pixel, hein, évidemment, mais vous voyez bien cette espèce de zigzag, cette virtuosité qu'il a aussi, qui peut être, il y a le geste nerveux, puis il y a aussi une espèce de presque, on a l'impression qu'il frotte la peinture avec des effets de flou et de lumière. Mais c'est comme si on était hors du monde, dans un monde de pantins, de personnes qui sont justement, qui n'ont plus d'individualité, qui joue à des jeux sans très bien tout s'en connaître les règles. Hein, certaines femmes ont l'air d'être justement abusées par certains qui abusent de certains pouvoirs, et dans des lumières aussi finissantes. Lumière du soleil qui se couche, hein, une brillance, donc aussi des lumières superficielles ou des lumières finissantes. Ouais, au début, ça pouvait sembler un petit peu surinterprété de ma part, mais quand, ici, par exemple, ça c'est l'indifférent, je crois. Là aussi, c'est une petite peinture. Là encore, vous voyez, un équilibre instable. L'air perdu lui-même, hein, jeune, dans un habit de satin ou de soie, je ne sais pas exactement, mais de velours très très fin. Là encore, tout en brillance. Et dans une attitude totalement artificielle. Il ne fait rien, il ne produit pas, ne joue pas. Donc là encore, des poses et des postures. Alors, il se trouve que le monde en vient à tout. L'univers dont il vient, ce qu'il a vécu auparavant, est à milieu des personnes qu'il voit. Donc il les voit avec un certain recul. Et ce certain recul, on le sent presque toujours, puisqu'il a presque toujours ces personnages qui semblent, ils ne sont pas au premier plan, ils sont toujours légèrement en retrait, comme si Watteau établissait une distance. Là, par exemple, ça s'appelle le faux pas. Alors attendez, j'ai deux. Celle-ci est meilleure. Et le faux pas, vous voyez, c'est encore et toujours, finalement, exactement. Derrière l'alibi du faux pas, vous avez ici toujours la même figure, avec les sourcils relevés, quasiment des oreilles pointues, le nez pointu, les yeux baissés, le même type de main. Hein, cette fois-ci, c'est plus la main de la musicienne. Et la jeune fille, effectivement, qui a glissé par terre. Donc, l'incertitude du sol aussi, effectivement, c'est cette idée qu'on peut glisser, qu'on peut tomber, on ne sait pas très bien où aller. Et il y a celui qui profite de la situation, effectivement, pour lui serrer la taille, et elle qui repousse délicatement, etc. Alors, et vous voyez même le code de couleur que Watteau utilise, avec le personnage masculin qui est très rouge, brique, fissuré, etc., et la jeune femme qui est de peau très claire, blanche, etc. Et qui est souvent de dos, hein, qui est souvent en bas, qui est plus fragile, et qui là tente de résister. Alors notez aussi quand même l'extraordinaire travail presque graphique des plis, hein, c'est que Watteau, on a l'impression qu'il dessine avec son pinceau. Hein, quelqu'un comme Toulouse-Lautrec, un siècle plus tard, n'est pas très éloigné de ça. Avec cette idée de gamme, hein, cette espèce de virtuosité comme ça du pli et de la lumière, comme si on dessinait en peignant et en peignant en dessinant, et en peignant en dessinant. Et là aussi, la diversité des touches. De ce point de vue-là, Watteau aussi est quelqu'un qui invente, hein, qui est très libre dans sa manière de peindre, puisque tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas contrôlé sur sa surface. Il y a une part d'inachevé, il y a une part de flou, il y a une part d'accident qui est, là encore, tout en délicatesse. Alors, vous voyez ça, le faux pas, voilà donc des peintures qui sont, on va dire, achevées. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait le cours sur Titien, je vous avais parlé de cette scène qui est traditionnelle dans la peinture de la Renaissance et du maniérisme, c'est Jupiter et Antiope. Jupiter déguisé en satyre pour séduire Antiope. Alors, Antiope, là aussi, il s'agit d'une réduction des pouvoirs féminins, parce qu'Antiope, à l'origine, c'est une reine amazone. Et donc là, elle n'est plus du tout ni reine, ni amazone, ni guerrière, ni combattante, ni libre. Elle est au contraire endormie. Et vous avez Zeus ou Jupiter qui se déguise en satyre pour aller abuser d'Antiope. Et regardez comment Watteau, sur un thème mythologique, aborde la question assez proche. Le sol, sans même se dérober, on a presque l'impression d'avoir une fosse de rêve. C'est pas loin, en fait, c'est presque mortifère. Jupiter, sous forme de satyre, a exactement la même tête que le musicien. Les sourcils, effectivement, en accent circonflexe inversé. La même couleur de peau cuivrée, brique, etc. Les mains sont également des mains noueuses, nerveuses, avec des veines saillantes. Et puis, on est encore dans l'abus. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est Jupiter et Zeus sont des figures divines, des figures solaires, des figures royales, masculines, dominantes. Et si on fait l'équation, on est quand même dans la cour des rois soleil, des rois masculins, des rois apolliniens ou jupitériens, ce qui est effectivement très clairement Louis XIV ou Louis XV se réfère très clairement à cette tradition solaire, jupitérienne, divine, et y compris avec un pouvoir tout puissant. Puisque c'est un roi de droit divin. Et le droit divin va jusqu'au droit de cuissage, en fait. Et ça, c'est très clair. C'est que et il y a donc, chez Watteau, je pense, c'est une interprétation personnelle, une sorte d'ironie critique sur une situation, une société où il y a de l'abus de pouvoir. Il y a de l'abus de pouvoir, et on a vu, par exemple, Watteau qui s'il était ami avec Rosalba Carrera. Watteau, c'est quelqu'un qui n'était pas très à l'aise non plus dans le monde et dans la société. Watteau ne s'identifie pas du tout au rôle ici masculin du satyre. On verra plus tard un petit peu, je justifierai un peu tout à l'heure. Et plutôt, semble avoir une sorte de compréhension ou compassion pour ces jeunes femmes qui sont effectivement victimes, abusées. Là, on revient dans le sommeil. L'autre, elle croit porter les portées musicales et en fait, l'autre abuse de la situation dominante au-dessus. Et à chaque fois, vous avez cette idée qu'il y a une sorte de position de faiblesse dont il y a abus. Et donc, dans sa version de Jupiter et Antiope, Watteau continue le même sujet. Voilà une autre version. Alors ça, c'est la tradition de Jupiter et Antiope vue par cette Jordaens. Hein, donc, ce n'est pas nouveau non plus. Hein, mais vous voyez que Watteau connaît bien la peinture ancienne. Watteau, c'est quelqu'un qui circule dans les collections royales, qui a voyagé, etc. Donc, c'est toujours Rubens que Jordaens. Et vous voyez que ses références, son répertoire iconographique du satyre, est assez clair, parce qu'on peut le transposer assez clairement sur les figures masculines qu'il nous a montrées précédemment. Alors, ça, on avait vu Jupiter et Antiope Parthicien, hein, donc c'est un thème. Alors, n'oublie pas que c'est toujours aussi un thème qui est toujours dans l'espèce d'idée d'asseoir et de performer, on va dire, parce que le représenter, c'est une façon d'imposer, le pouvoir masculin, qui est une sorte d'enjeu pendant presque 2000 ans. Hein, depuis, en gros, on avait vu ça l'année dernière, hein, depuis l'irruption un peu des sociétés sédentaires, hein, dans lesquelles la propriété de la terre, la propriété du vivant, va déborder aussi sur la propriété, en gros, des paysans, quand on va être les gens, ça va être aussi la propriété des travailleurs, des employés, des esclaves, des femmes, des enfants, vous avez, et des colonies. C'est qu'on est vraiment cette idée, un système patriarcal où on possède le vivant. On pense posséder la terre, le vivant, tout ce qui est vivant, et il y a une hiérarchie dans le vivant. Avec, et ça, c'est vraiment une société, on va dire, moderne, occidentale, hein, qui est validée y compris par des figures patriarcales dominantes, Jupiter, Zeus, Dieu, le dieu monothéiste, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel tout ce qui est féminin est systématiquement amoindri, déprécié, réduit. Réduit aussi comme la nature, est associé aussi à la nature qu'il faut dominer, qu'il faut posséder. Ou à l'animalité. Hein, vous avez ces choses-là aussi, etc. Donc ça, on avait vu ça l'année dernière. Alors, je passe sur tous les Jupiter. Alors voilà, maintenant, regardez, j'ai fait un petit cadrage. Et c'est parce que j'avais une hypothèse. Mais, si j'étais CNRS, je pourrais valider ça. Mais vous avez cette idée que, cette hypothèse, j'ai cherché, j'ai regardé dans toutes les peintures de Watteau, vous avez très souvent une petite scène, parfois très discrète, et dans laquelle vous avez toujours la même, une sorte de micro-scène dans la peinture. Micro-scène dans la peinture, ça je ne sais plus d'ailleurs de quelle peinture c'est extrait. C'est extrait, bah, c'est un détail d'une de ces grandes peintures, dans laquelle encore le même personnage qui abuse, celle qui semble un peu surprise, parce qu'en même temps elle est un peu trompée, trahie, elle se doute encore, il y a une sorte de jeu mais auquel elle va perdre. Là, on l'avait vu, celle-ci, de la bonne surprise. Là, vous avez ici derrière en fait un satyre et un bouc. Donc, derrière cette jeune fille, vous avez quand même la référence au bouc et au satyre. Là, vous avez toujours le même type de personnage qui regarde un peu comme presque comme un vampire, le cou fragile de cette jeune femme qui lui tourne le dos, donc, et presque toujours, hein, cette espèce des oreilles, la bouche, etc. Et ça, alors, c'est petit parce que c'est la halte de chasse. Hein, c'est là-dedans. Je continue, si je trouve ma petite. Ici. Celle-ci, c'est l'amour pacifique. Hein, donc, c'est, vous avez la scène générale de l'amour pacifique, et dans le sujet de l'amour pacifique, vous avez encore quasiment la même nature que le faux pas ou la leçon de musique, le même type de rictus, le même type de regard, le même type de posture, etc. Comme si Watteau ne pouvait pas s'empêcher de, presque de façon consciente ou inconsciente, mais comme c'est plus fort que lui, de mettre en scène en permanence quelque chose qui semble, moi c'est une interprétation, qui semble le choquer. Qui semble le choquer, et je justifierai tout à l'heure pourquoi je dis ça. Mais, alors, là encore, regardez le même personnage. Et alors là, les sourcils, alors, il est un peu plus gentil, là, il s'est rapproché. Ça, c'est l'arlequin, mais c'est toujours lui, le chapeau rouge. Or, dans la tradition, on verra d'ailleurs tout à l'heure, il connaît dans la comédie italienne, etc., Méphistophélès, etc., le diable est représenté comme ça. Là encore, le dénicheur, regardez, c'est toujours le même. Alors là, il y a quelque chose de un peu plus complexe, mais c'est le même personnage. Et vous avez vu, ça ne ressemble pas du tout à Watteau. Le visage de Watteau n'avait rien à voir avec ça. Il était plutôt un peu osseux, plus maigre, etc. Ouais. Toujours la même attitude, donc dans le dénicheur, donc il a dénié, etc. Et pour quelqu'un qui semble être un enfant, il a des mains aussi qui sont un peu osseuses. Là, on a vu le faux pas. Là, regardez, c'est le festival de l'amour. Donc c'est quasiment une réédition du faux pas. Comme si tout à coup, il sortait une peinture dans la peinture. C'est même exactement une sorte de double de ce qui sera un de ses sujets. Là, vous avez encore une autre, c'est le plaisir partagé. Alors, partagé moyennement, effectivement, avec toujours, alors le personnage est moins gros, mais vous voyez, c'est des tout petits détails. faut fouiller. Hein. Parce que là, c'est, quand je zoome, c'est pour ça que c'est flou, parce que c'est vraiment petit. Hein. Et où c'est la suite hein. Là encore, les bergers. Toujours la même chose. Et si vous regardez bien, je crois que j'ai celui-ci, ça c'est l'embarquement pour Cythère. Pèlerinage à Cythère, on retrouve le personnage encore, avec encore cette idée de la chute. Voilà. Il l'aide, mais en même temps, pour en profiter, etc. Alors. Là, ici, d'ailleurs, c'est vraiment petit. Alors, justement, en fait, dans les personnages de Vatos, ce personnage-là correspond à un personnage de la comédie italienne, souvent, je crois. C'est pas. Comment il s'appelle ce qui est taquin là ça me reviendra. Vous avez ce personnage qui est. Regardez, a les sourcils effectivement marqués, un bonnet rouge, un visage un peu pointu, dominant, etc. Donc, les personnages qu'on retrouve quasiment toujours dans cette attitude-là sont des personnages diaboliques, en fait, hein, qui ont cette espèce de figure un peu du diable ou du satyre. Ou de, effectivement, de la plupart de la tromperie aussi, du jeu de la tromperie et de l'abus. Donc, de façon assez claire, on le retrouve chez Watteau, et on voit bien d'où où est son registre, effectivement, iconographique. Alors, là, voilà, justement, certaines des peintures dans leur entièreté. Ça, c'est la fête de l'amour, et c'est là où vous voyez, il y a le personnage ici, comme le faux pas. Et vous avez cette idée, la fête de l'amour, donc c'est que des groupes, ici, qui sont tous une sorte de variation sur les attitudes possibles ou les types de séduction différentes. Et vous voyez cette espèce de jeu où ceux-là ont l'air de s'amuser du désarroi ou de la tromperie que celui qui fait le faux pas est en train d'opérer. Donc vous avez là toujours cette idée aussi d'une sorte de jeu superficiel. Les personnages d'ailleurs sont petits hein, dans le paysage, ils ne sont pas grands, ils ne sont pas frappés, ils sont flottés. Ils sont comme des petites poupées brillantes, et là encore, dans des paysages avec des lumières qui semblent décroître. Alors, est-ce qu'il s'agit là de l'anticipation par Watteau d'un monde finissant? C'est pas impossible. C'est pas impossible, puisqu'effectivement, c'est une jeunesse oisive, superficielle, qui a des valeurs de jeu, qui sont des jeux en plus qui peuvent être dangereux. Dans lequel vous avez du mensonge, vous avez une dépersonnalisation, vous avez des complicités, des choses qui se jouent sans que tout le monde en soit au courant, etc. Donc quelque chose qui, en plus, est brillant et en même temps fragile. Comme si Watteau avait une sorte de conscience que le monde qu'il rencontre et qu'il peint à la cour, c'est un monde qui, en fait, est fini, et finissant, qui a les derniers feux, et qui, effectivement, c'est quelque chose qui ne tient plus la route, on va dire, qui ne tient plus, qui n'a plus d'assise et qui ne construit rien, hein, qui est dans une sorte de... Et en plus, qui est totalement coupé de toute réalité, puisqu'effectivement, vous avez cette espèce de ces parcs qui sont des vrais faux parcs, qui ne sont pas des natures réelles, qui ne sont pas des vraies forêts, hein, dans lesquelles il y aurait une activité, qui sont dans des architectures, qui sont des imitations de l'antique. Hein, et là, on retrouve encore et toujours, ben ça, je ne sais même pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je crois que je n'aurais même pas... Non, je n'aurais même pas, j'aurais même pu le détailler. Vous avez encore ce même personnage qui semble abusé. Donc vous voyez, ce monde-là est sans doute effectivement le monde finissant. Il y a beaucoup d'éléments qui... Ça, c'est un nouveau logiciel, j'ai pas vu le nouveau. Alors, justement, on voit la différence quand Watteau va peindre d'autres univers. Il y a un monde qui semble avoir, grâce à ses yeux, c'est le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance où là, il y a du vrai jeu. Et regardez, les corps sont des corps plus ronds, plus campés. Le sol ne semble pas totalement disparaître sous leurs pas. Ils sont assis, il n'y a pas d'abus. Ils sont vraiment là, dans le jeu pur, avec une sorte de batte de cricket ou de baseball. Hein, et les petits habits, les petits déguisements, les postures et les visages, on voit beaucoup mieux les visages. Comme si les enfants avaient une personnalité plus affirmée que les adultes. Ce qui est paradoxal. Puisqu'effectivement, l'enfant est encore inachevé. Et cette innocence de l'enfance, j'insiste là-dessus, parce qu'on va voir le rapport de Watteau sans doute à l'enfance. Et là, vous avez vu, ils ne sont pas petits, alors que leurs, ils sont plus petits, ils sont beaucoup plus grands, même dans la peinture. Ils occupent plus de place. Et ça, c'est quelque chose aussi qui semble être une sorte de signe de la sensibilité de Watteau. Et il en a fait plusieurs. Et d'ailleurs, ça s'appelle, le titre de cette peinture est touchant, puisque c'est, je crois que c'est le Paradis perdu. Mais je suis pas très futé. Fête des Vénitiennes. Oui, l'âge d'or. Ça s'appelle l'âge d'or. Donc c'est clair que, pour savoir, il y a une part de perte. Comme si ce monde adulte était un monde du mensonge, de la tromperie, de l'abus, etc. Et là, garçon et fille jouent. Là encore, on le retrouve, ils sont un peu plus âgés, mais cette jeune fille, le chien, les enfants qui jouent la musique, etc. Alors, il y a une part de ciel beaucoup plus bleu, c'est pas une lumière non plus finissante, c'est quelque chose de plus ouvert, hein. On n'est pas dans cette espèce de lumière d'été ou de printemps finissant, quelque chose de plus chatoyant, épanoui. Le visage de la jeune fille ici est un visage aussi qui regarde franchement directement, qui n'est pas surprise. Les couleurs sont des couleurs aussi plus vives, hein, le rouge et le vert, etc. Et puis, eh bien, le jeu, la musique, elle est partagée, hein, de façon assez claire. Donc, âge d'or, monde de l'enfance, semble être, y compris par les proportions, par les dimensions, par la façon dont ils nous regardent, par la façon dont ils sont entre eux, parce que là, on peut dire que le jeu, c'est quelque chose qui semble quelque chose de parfaitement naturel et sain. Alors, où je voulais en venir, alors j'allais faire une blague, le Gilles est blanc et le Gilles n'est pas jaune, mais bon. Parce que c'est le titre de la peinture, c'est le Gilles. Donc, là, ça s'appelle justement le Gilles, ou Pierrot. Et là, vous avez quelque chose qui semble être le contrepoint total des peintures précédentes. D'abord, elle est grande. Ensuite, profitez-en au Louvre, il n'y a plus personne dans les salles du 18e. Tous les gens sont en troupeau là, dans les salles italiennes. Et encore, devant quelques peintures, les peintures françaises, franchement, allez-y, hein, les Charvin, les Watteau, les Fragonard, les Poussins, il n'y a personne, vous restez 3 heures devant, personne ne vous poussera, hein, à moins que ça ait changé depuis. Et donc, là, vous avez quelque chose qui nous éclaire, justement, a posteriori, sur le reste. Parce que vous avez le Gilles, ben, c'est le Pierrot, c'est le naïf. C'est le naïf qui est blanc, justement, il est satiné, ce n'est pas la brillance. Et ensuite, c'est Pierrot la Lune. Et Pierrot la Lune, c'est au clair de la Lune, Pierrot, etc. C'est justement, on n'est plus dans le roi, c'est presque l'inverse du roi Soleil. On est ici, dans le contraire, les figures lunaires. Il n'est pas dans la brillance, la posture, le pouvoir. Il a même l'impression d'avoir des habits trop grands, comme s'il avait poussé trop vite. Il est resté enfant. Il est resté naïf. Il nous regarde les bras ballants. Il n'aura pas du tout l'air ni triomphe. Regardez son visage. C'est à milieu du satyre, justement. Il n'avait pas du tout les sourcils arqués, ni l'air un petit peu faux et fourbe, etc. Il est blanc devant nous, dans une posture presque impuissante, etc. Par contre, derrière lui, il y a ceux qui se moquent. Il y a le scapin, il y a le coq, il y a une sorte de courtisane, il y a l'âne, on va lui faire une blague, etc. Et il est celui dont on va se moquer. C'est pour ça que, or, si on continue l'équation, là, on peut voir comme c'était une sorte d'autoportrait de Watteau. Comme si, effectivement, lui, il se reconnaît beaucoup plus dans ce type de personnage. Comme il se voyait beaucoup plus dans l'enfant, il se voit beaucoup plus dans cette espèce de pureté, de naïveté, d'innocence, incapable de jouer à des jeux, incapable de mentir, hein, incapable de tromper, préférant presque qu'on se moque de lui, parce qu'en fait, il est plus fort, il est plus grand, l'air de rien. Hein, puisque, au sens strict, il se représente plus grand. Et là, il se met à nu aussi, une sorte de dévoilement. Et alors, ça, rarement, ça n'a pas été dit comme un autoportrait. Mais si vous voulez, quand on voit le contraste incroyable entre cette peinture du Pierrot et les autres, on peut se demander ce qui est en jeu là-dedans. Et on comprend bien, y compris la couleur blanche, hein, Candide, sans strict, Voltaire, Candide, c'est quasiment la même époque, hein, vous avez cette idée aussi que ce Candide-là, la couleur blanche, c'était la couleur qui était assimilée aux femmes. Hein. Ici, le satyre était au contraire le rougeoyant, etc. Et d'ailleurs, il est mis ici, clairement ici. Là, avec l'autre, le coq. Hein, le coq, le satyre et le scapin, avec le rein, a l'air de nous dire en plus comme s'il avait aussi. Et vous avez aussi quelque chose qui est assez clair. Ici, comme si le personnage qui était là était prêt à nous inclure dans le jeu, comme si on était abusé, naïf. Hein, de quel côté on va être. Et mais la posture, alors, là où Watteau est fort, effectivement, c'est que, et on voit bien qu'il est même incroyablement fort, c'est qu'il est capable de faire des peintures et des drapés brillants, et il est capable aussi de travailler même le satiné, comme ça, d'une très, très grande douceur. Et presque la majeure partie de sa peinture soit blanche, c'est aussi quelque chose qui est remarquable d'un point de vue pictural. C'est très moderne, de parti pris délibéré. Et vous avez presque un face lunaire, hein, là aussi comme un contrepoint du roi soleil tout puissant, hein, tout en la posture. Alors c'est quelque chose qu'il va faire aussi dans une série de peintures, ça, c'est justement des peintures, cette fois-ci ben, nocturnes souvent, c'est des peintures ben, des baladins ou des comédiens.